Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice ce soir avec Georges Vézan qui est physicien et historien. Dans l'esprit de justice, on a l'habitude de recevoir des juristes, des historiens, parfois des policiers, plus rarement des scientifiques. Et je vais déroger partiellement, comme on le verra, à cette règle parce que j'ai invité ce soir Georges Vézan, qui est physicien, spécialiste des supraconducteurs, mais je l'ai invité parce que il s'est lancé dans une véritable enquête pour reconstituer la vie de son père qui a été fusillé en 1942 par les Allemands pour des faits de résistance dans le nord de la France. Une histoire qu'il a racontée dans un livre que viennent de publier les éditions Le Bord de l'eau, un livre intitulé « Profession du père fusillé ». Bonsoir Georges Vézan.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs brièvement pour qu'ils puissent rentrer dans le contexte de la démarche qui a été la vôtre ?
Bien, je suis né en 1941 à Bruxelles, fils de deux résistants juifs polonais communistes. Ma mère, qui était revenue d'Espagne, avait fait toute la guerre d'Espagne, et mon père, qui était arrivé de Pologne peu de temps auparavant. Ils vont entrer tous les deux dans la résistance dans le nord de la France parce que le nord de la France était rattaché à la commandature de Bruxelles après l'armistice de 40. Mon père sera fusillé le 15 décembre 42, donc je ne l'ai jamais connu. Par contre, on m'a élevé dans l'image du héros comme il se doit. Ma mère, elle, sera arrêtée plus tard, en février 43, déportée en décembre 43. Et aura la chance de revenir du camp in extremis après Ravensbrück et Mauthausen. Et donc, quand il est décédé, j'avais déjà fait un livre consacré à sa mémoire qui s'appelle Estoucha, chez De Noël.
Pourquoi Estoucha ?
Ben, c'était le diminutif qu'on lui donnait.
Pendant la guerre d'Espagne.
Pendant la guerre d'Espagne, c'était Juanita. Elle était sous le nom de Jeanne Lefebvre.
D'accord, Jeanne Lefebvre, d'accord. Voilà.
Mais comme beaucoup de juifs polonais, elle était toujours très brune et donc elle se faisait facilement passer pour une Espagnole.
Elle passait à Conuvier. D'ailleurs, il sera souvent question de nom dans cette émission, de nom, d'orthographe, de substitution.
Alors ce père, je ne l'ai jamais connu donc de manière consciente. Il s'est penché sur mon berceau, c'est à peu près la seule chose que je puisse dire. Quand j'étais petit, j'entendais parler de Jean, j'entendais parler de Maurice, je savais que c'était la même personne. Et sur son passeport, quand j'en ai eu connaissance bien des années plus tard, c'était quand même écrit Moïse Chaim. Mais évidemment, dans les années 40, c'était pas très populaire de se promener avec un prénom comme celui-là.
Donc vous en entendez parler très souvent par votre mère ?
Pas trop.
Pas trop souvent.
Pas trop, parce que c'était une douleur. Et une des rares choses que j'ai de lui, c'est un album photo qui montre plutôt une adolescence joyeuse, etc. Quelques aventures féminines en plus. C'était pas ce qui faisait tellement plaisir à ma mère. Cet album, on l'a récupéré après la guerre. Et j'avais compris qu'il fallait pas qu'on le feuillette ensemble. Au moment où elle est décédée, comme tout le monde, j'étais en train de jeter les papiers dans l'armoire. Au dernier moment, je vois un sac de plastique très poussiéreux. Je me dis, ouf, c'est fini, je vais pour le jeter. C'était un peu trop pesant pour ce que je pensais. J'ai ouvert, c'était l'album. Et donc, j'ai de mon père quelques traces. Et au fil des ans, à partir du moment où l'image du héros ne me suffisait pas, ben, c'est la présence de cette absence qui a pris du poids.
Pourquoi cette image du héros ne vous satisfait pas alors que vous êtes pupille de la nation, il est mort pour la France, quoi. Au terme d'une longue histoire, là, on y reviendra.
Oui, mais parce que, si vous voulez, bon, évidemment, j'ai été élevé dans un milieu de résistants. C'était pas des anciens combattants. Ils parlaient pas de ce qu'ils avaient fait. Ils se projetaient vers l'avenir éventuellement. Le présent n'était pas très facile pour eux. Soit ils n'étaient pas français, soit ils venaient de l'être, mais c'était compliqué quand
parfois
on était communiste.
On a retiré la société française.
Voilà, ce qui nous arrivera à un moment. Et c'était donc une situation difficile et c'était pas. J'avais besoin de retrouver quel homme c'était. C'est pas bon. Il était musicien. les circonstances ont fait que j'ai jamais pu avoir d'éducation musicale après un bon début, paraît-il. Et c'était l'homme qui m'intéressait, c'était pas le héros. Parce que le héros, j'étais servi, il y avait ce qu'il fallait.
C'est ça, c'est ça. Et alors, on reviendra ensuite sur la phase de la résistance, mais donc vous partez pour cette quête du père, cette enquête sur le père, avec un album photo.
Oui, et plus deux, trois documents, mais ça s'arrête là, des trucs scolaires, un diplôme plus grand qu'une affiche électorale de la 4e République de Varsovie. Et puis, bon, évidemment, comme tout un chacun dans nos familles, je vais sur le Holocaust Museum à Washington. Oui, il y a des Weissand, avec un J comme Wojtyla, qui sont là. Je connais pas le prénom des grands-parents. Et donc, quand je demande une carte d'identité, on me pose toujours cette question, prénom des grands-parents. Et donc, j'ai pas de carte d'identité. Je dis, si vous les savez, vous me le donnez. Moi, je ne sais pas.
Et alors, comment vous vous y prenez à partir de cet album, de ces quelques photos? Comment est-ce qu'on peut reconstituer? D'abord, vous en grattez quelques-unes et vous retournez voir s'il n'y a pas quelque chose d'écrit derrière.
Ça, j'ai pas osé le faire. Cet album, d'abord, je l'avais perdu. J'ai cru l'avoir perdu. Je déménage et je m'aperçois que non, je ne l'ai pas perdu.
Mais ça a dû être terrible pour vous, Georges Vézan, de perdre ce seul bien, ce seul legs, ce seul héritage dans lequel il y avait tout, ou bien c'était un acte manqué?
Pour être honnête, j'en ai parlé à personne. Maintenant, ceux qui me connaissent savent très bien qu'une fois tous les 15 jours, je vais piquer une crise parce que j'ai perdu la clé, j'ai perdu les papiers, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Faut laisser passer l'orage. Et quand le calme revient, en général, j'arrive à retrouver ce que je croyais avoir perdu.
Alors cet orage, il a duré 3-4 ans, le temps?
Il a duré longtemps parce que l'album s'était en fait retrouvé au fond d'une valise, j'avais déménagé. Et puis, pour je sais plus quelle raison, un jour, j'ai voulu quand même faire l'inventaire. C'était 2001. Et il était au fond de la valise, une valise en carton bouilli que ma mère a trimballé dans toute l'Europe après la guerre quand elle cherchait à gagner sa vie comme médecin dans des convois de rapatriement.
Et donc, ces photos, il n'y en a pas beaucoup en plus des photos. Il y a une partie de l'album qui est vide.
Oui, il sera jamais terminé, évidemment.
Bien sûr.
Il y a très peu de photos. Il y en a que je vois des gens. Des silhouettes que j'arrive à identifier comme étant peut-être ce qui aurait été ma grand-mère, ou des choses comme ça. Le grand-père, ça paraît plus bizarre, pas évident. Et puis un jour, j'ai un copain polonais qui a fini par, vu les circonstances historiques, déménager en Israël, mais on parle très bien le français. Je lui montre l'album parce qu'il y a des choses en polonais qu'il faut quand même traduire. Et je le vois et je suis complètement paralysé, qui glisse son ongle sous une photo, la redresse. Il y avait des choses écrites derrière. Et c'était une sœur, une jeune sœur de mon père, plus âgée, je ne sais pas, qui lui donnait un bon espoir puisqu'il quittait la Pologne.
Ça on est dans 1938.
Mon père a traversé l'Allemagne 4 jours avant la nuit de cristal.
Parce que l'Allemagne, en 1938, quand on est juif polonais, il parlait allemand, il était germanophone.
Alors, il faisait sa famille était originaire de Lodz, mais après la guerre, après le fameux congrès de Versailles, la Pologne a récupéré la partie occidentale, et donc en particulier la ville de Torn, qui est aujourd'hui Toruń, en Pologne. Et visiblement, son père, qui était relieur, s'est installé à Toruń pour monter une petite affaire de commerce de reliures. Et c'était là où il a passé son enfance.
Très bien. Donc, il arrive en Europe occidentale, pourrait-on dire. Il arrive en Belgique.
Oui. Alors, ses études étaient en allemand. On n'a pas terminé la question.
Oui, c'est vrai.
Parce que cette partie de l'Allemagne, c'était un lycée d'État polonais. Mais l'État polonais avait respecté la diversité linguistique et il a pu faire toute sa scolarité
en
allemand.
Donc, il était yiddishophone?
Non, pas du tout. À mon avis, pas du tout.
Pas du tout.
Je pense qu'il était d'une famille déjà, comme on dit, juif assimilé, qui commence, comme beaucoup de juifs, émancipés à partir du 19e siècle, quoi.
Donc il arrive, il est germanophone, il parle pas français.
Je crois qu'il a fait le français dans ses études, parce que le peu de textes que j'ai en français de lui, il y a des maladresses évidemment d'expression, mais il n'y a pas une seule faute d'orthographe, donc ça veut dire qu'il pratiquait le français dans ses études secondaires. Il est déjà engagé dans des groupes sionistes très à gauche, à Shomer HaTzair, quasiment marxiste, et c'est ça son enfance, ça n'a rien à voir avec une éducation religieuse ou des choses comme ça.
Alors il arrive à Bruxelles, il est communiste à ce moment-là?
C'est difficile à dire, j'ai pas de bulletin d'adhésion à l'époque. Il est dans la Belgique à la veille de la guerre, est devenu un analogie avec la période actuelle. Il y avait 12 500 Polonais en Belgique à la fin de la guerre 14-18. À la veille de la guerre 40, il y en a 70 000. Juifs pour la plupart, qui ont quitté à cause des répressions antisémites, à cause de ce qui s'est déjà passé, et qui attendent des possibilités de partir à l'étranger, ou pour certains d'entre eux, de faire leurs études, ce qui est son cas. Il avait visiblement l'idée d'un parcours professionnel bien précis, que j'ai longtemps considéré avec pas mal de mépris, devenir ingénieur agroalimentaire, jusqu'à découvrir que ce fameux institut agroalimentaire à Bruxelles avait un conseil scientifique avec des prix Nobel.
Oui, et puis que cette qualité d'ingénieur va être importante pour son destin.
Oui, aussi, c'est ça qui le casera. Il n'était pas d'une famille ouvrière, il était vraiment d'une famille petite bourgeoise ou bourgeoise. Quand j'ai vu qu'au moment où on l'arrête, il avait 9 chemises, je suis retourné dans mon armoire pour compter combien j'en avais, parce que je trouvais que pour quelqu'un en 1942, c'était un chiffre important.
Comment est-ce qu'il rencontre votre mère?
Alors, je pense qu'elle revient d'Espagne, où elle a fait toute la guerre. Elle était partie avec un copain qui a été tué dans les premiers jours. C'était un copain juif polonais également, doctorant déjà en biologie. Et ils sont partis avant les brigades. Pas de confusion là-dessus, ça n'a rien à voir avec les brigades internationales. Pour porter secours, puisqu'ils étaient tous les deux...
Service sanitaire.
Service sanitaire. Il n'y avait rien d'organisé. Ils arrivent par Irun. Il y a une bataille, c'est les troupes marocaines de Franco qui ont débarqué. Et son copain est tué dans les premiers jours. Donc ma mère va rester dans un bataillon basque, avec en étant l'infirmière sous le nom de Jeanne Lefebvre, évidemment.
C'est ça. Voilà. Comme plus tard, il y aura un Deltour, oui.
Voilà.
C'est ça. Et donc, alors, elle a aussi une guerre incroyable, parce qu'elle termine interprète dans les avions russes.
Oui, soviétiques.
Soviétiques, pardon. Soviétiques, oui.
Donc, oui, ce qui se passe, c'est qu'elle est dans ce bataillon basque-espagnol. Donc ça, j'ai retrouvé dans les archives de la guerre civile en Espagne. Elle va être blessée.
Vous êtes allé consulter, vous avez reconstitué tout
ça. Oui, j'ai eu la chance, j'avais... Les physiciens sont quand même eux aussi une internationale.
Ça vous a servi.
Et donc j'avais un bon copain, Bruno Escoubès, que dont ma mère rencontrera le père par hasard en allant se faire soigner à Évian, qui était marié à une petite fille Miguel de Unamuno. Les archives de la guerre civile en Espagne.
Ça vous ouvre des portes.
Oui, elles sont à Salamanque.
C'est ça, d'accord. Et donc, elle termine la guerre d'Espagne, mais ils se rencontrent...
Elle revient, elle est une héroïne. C'est une petite brune, 1m50 et quelques, guerre plus, un nez en trompette. Mais elle revient d'avoir combattu le fascisme. Et dans ce milieu d'étudiants tous de gauche, etc., évidemment, c'est quelqu'un de...
respecté,
d'important, et lui est plutôt beau gosse, semble-t-il, donc ça a bien marché. Quoi.
Et il se rencontre dans le sud de la France, et vous reconstituez là aussi par des photos.
Ça, c'est beaucoup plus compliqué, c'est quelque chose qui m'a beaucoup coûté d'y aller. Je savais où j'étais conçu, où j'avais été conçu. J'étais conçu quand ils sont partis en exode. En fait, mon père, pour arriver de Pologne, avait dû donner des garanties que quelqu'un subviendrait à ses besoins matériels pour ses études. Et j'ai découvert ce que je ne savais pas, qu'il avait un oncle, guère plus jeune que lui, qui était déjà installé en Belgique depuis longtemps, avec l'inévitable atelier de fourrure et couture, comme beaucoup d'artisans juifs.
Bien sûr.
Et que cet oncle, il ne part pas en exode avec. L'oncle, visiblement, pour sauver son commerce, lui, va en exode sur la côte belge, ce qui n'était plus très habile.
De plus judicieux.
Mais lui, avec ma mère et d'autres camarades de leur groupe d'étudiants marxistes, partent dans les derniers wagons. C'est ma mère qui se fait engueuler par son directeur de labo à la fac de médecine de l'ULB, qui lui dit « Mais avec le nom que vous portez, vous feriez mieux de foutre le camp ». Et donc, ils vont partir dans un des derniers trains qui emmène des réfugiés de Belgique en France. Les trains arrivent à Toulouse. À Toulouse, il y a déjà 200 000 réfugiés, à comparer aux chiffres de combien ? 400 que nous allons peut-être accepter aujourd'hui. Et le préfet avait convoqué tous les maires des municipalités plus au sud pour organiser quelque chose.
Les accueillir.
Tout le monde se disperse. Il reste un maire qui voit ce petit groupe d'étudiants jeunes, pour la plupart d'entre eux, et qui dit, écoutez, moi, il y a de la place chez moi, ça s'appelle Montoulieu-Saint-Bernard.
Et vous êtes retourné sur ce lieu.
Il m'a fallu beaucoup de temps pour me convaincre d'y aller.
Et vous avez retrouvé des éléments, là.
Alors, ça, c'était absolument surprenant. J'avais une photo, dans l'album photo, il y avait des photos de Montoulieu, une photo de groupe, où mes parents se regardent avec...
Amoureusement.
Amoureusement, comme seuls peuvent le faire deux amoureux dans une photo de groupe qui ressemble à une photo de classe. Et en haut de cette photo de groupe, il y avait des jeunes gens avec des bérets basques. Et je me suis dit, bon, ça doit être des républicains espagnols qui, une dernière fois, avant que tout pète, ont voulu marquer le coup. Et je suis allé à Montoulieu-Saint-Bernard, je m'arrête au cimetière en essayant de déchiffrer des patronymes espagnols. Ce cimetière est grand comme un terrain de foot, il sera jamais plein. Et ma mère m'avait toujours expliqué que c'était un village où il y avait eu énormément de morts à la guerre 14, c'est pour ça qu'il y avait des maisons vides. Et je grimpe au village, je vois le monument aux morts qui effectivement n'a rien à envier à ce qu'on connaît dans les banlieues parisiennes, et il n'y a personne. Et je tourne en voiture et je vois une grosse dame, comme toujours dans ces cas-là, il y a toujours une grosse dame qui vous regarde et qui marmonne quelque chose. Elle me présente son mari qui sort de la sieste et son mari m'explique « Ah ben quand il y a des réfugiés, il faut aller voir monsieur et madame Bell qui sont en bas. » Et on va voir ce monsieur et madame Bell, je passe un épisode avec ce monsieur que j'ai croisé. Monsieur et Madame Bell se tenaient au bord de la route comme un couple d'amoureux de peiné qui aurait atteint la 70-80 ans. Je montre la photo et Monsieur Bell dit à son épouse, Suzanne va chercher l'album. Lui aussi, il en avait un, mais il n'avait pas une photo. Il avait toute une photo de tout ce qui s'était passé quand ces gens étaient là.
Donc vous avez pu reconstituer une partie de l'histoire.
J'ai comme ça pu reconstituer comment ils étaient. Les fameux scouts espagnols, c'était des scouts parisiens, qui a été descendu de Paris au moment de l'invasion avec leur vélo. Je comprends pas comment ils ont fait.
Parce que leur
maman, qui était une dame de la bonne bourgeoisie parisienne, avait, à un moment de la guerre 14, fréquenté une dame belge que j'ai vue ensuite à Bruxelles.
Donc vous avez pu reconstituer cette histoire. Voilà, oui. Cette rencontre de Montoulieu, vous avez des témoins encore vivants qui peuvent vous en montrer des photos.
Enfin, ils étaient, parce que j'ai mis 15 ans à faire ce bouquin. J'avais quand même autre chose à faire que ça.
Mais alors, après, on arrive dans les années 40, dans le nord de la France.
Oui, ça c'est ma Madeleine.
C'est le cas de le dire, d'ailleurs, parce qu'il y a une ville qui s'appelle la Madeleine.
Voilà, vous avez été, j'ai appris, juge à Valenciennes quand vous étiez.
Je connais absolument.
Et donc, je ne suis pas de Valenciennes.
C'est spécial.
Je suis
on y viendra, à Valenciennes, en fin
d'émission. Village qui s'appelle Labassé.
C'est ça.
Un bourg, d'ailleurs, qui a été complètement détruit à la guerre 14. Et mes parents passent dans le nord de la France. D'abord, mon père, qui se fait embaucher dans un terrain d'aviation au sud de Cambrai, qui s'appelle Nierny. Alors Cambrai, c'est le berceau de l'aéronautique avec Blériot, etc. Et les Allemands décident de faire un grand aérodrome militaire. Il y aura eu 15 000 ouvriers qui vont passer là-dessus. Il y en avait sûrement des communistes dans le lot, vu la tradition du nord de la France et des environs. Et mon père se fait d'abord embaucher comme électricien. Puis, visiblement, parlant l'allemand ou jouant un peu des coudes, devient magasinier, ce qui lui permet de sortir du matériel.
C'est ça.
Ce qui lui permet aussi de nouer des contacts.
Et donc, il est entré déjà dans la résistance à ce moment-là.
Oui, c'est un passage progressif.
C'est
ça. Disons, quand vous dites la résistance.
Oui. Mais on va y revenir.
Ça, c'est a posteriori qu'on a baptisé ça la résistance.
C'est vrai. On va revenir sur cette histoire. Je voudrais qu'on en arrive à ce qui est le début de votre livre et qui est un très beau d'ailleurs et très signifiant que vous intitulez comme une fuite en Égypte. Qu'est-ce qu'ils font vos parents?
Voilà,
ils ont un nouveau-né.
On leur propose au mois de juin 42 de rentrer dans la clandestinité. Mais il va donc il y a ce bébé. Et le gars qui leur dit, on leur dit, mais il y a quelqu'un qui va s'occuper de lui, et on paiera la pension, etc. Donc je suis amené chez une dame, dont je connais pas le nom, dont le mari est prisonnier de guerre, qui a elle-même déjà des enfants.
Où ça se passe pas très bien.
Apparemment, oui, ça c'est ce qu'on m'a raconté.
Vous n'avez pas de souvenir.
Si, le seul souvenir que j'ai, c'est que j'ai passé mon enfance à ne savoir m'endormir qu'en balochant ma tête de droite à gauche comme le pendule d'une horloge.
Oui,
je n'arrivais pas à dormir.
C'est un signe d'hospitalisme, ça, non?
C'est ce qu'on m'a dit, ma copain médecin m'a dit, ça c'est un signe de maltraitance quand tu as été enfant.
Oui, c'est ça, donc ce qui montre que ça n'avait pas été formidable.
Alors, oui, j'avais, paraît-il, quand je suis arrivé, alors mes parents m'ont retiré de là, c'est là où commence le livre.
C'est ça, voilà.
Et m'amène à la Bassée, dans une famille de résistants, où en principe j'aurais pas dû rester. On me passe dans le bain là-bas, et on voit apparaître des traits rouges aux poignets et aux chevilles. Donc j'étais ligoté quand cette dame s'occupait d'autre chose.
Et vous ne deviez pas rester très très longtemps chez ces personnes, vous allez y rester 6 ans.
Je vais y rester 6 ans, tout en restant ami avec les gens qui auraient dû m'accueillir et qui connaissaient bien mon père.
France Culture,
Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
Esprit de Justice, toujours avec Georges Vézan, qui nous parle de son enquête sur son père et qui a choisi de nous faire entendre ce morceau de Gideon Klein. C'est un trio, l'allegro de ce trio, qui est en l'occurrence joué par Victor Ullmann. Pourquoi ce choix, Georges Vézan?
Bien, disons qu'il y a une coïncidence heureuse aujourd'hui. Ce concerto Klein était un des musiciens qui était à Theresienstadt, le camp qui servait à la fois de propagande pour les nazis et où on avait mis les personnes âgées, mais qui était un camp de transit.
Il n'y restait pas à
Theresienstadt. Il a écrit ce concerto quelques jours avant de partir à Auschwitz, dont il n'est pas revenu. Et c'était en octobre 44. Octobre 44, il n'y a que ce matin que je l'ai appris. C'est aussi le jour où, à la Bassée, on a récupéré le corps de mon père et on l'a enterré dans le cimetière de la Bassée.
Et où vous avez retrouvé des documents même sur cet enterrement.
J'ai reçu aujourd'hui, je ne connaissais pas la date, et c'est aujourd'hui par la poste qu'est arrivé un envoi, dont je remercie la famille Megatelli, la maman vient de mourir, c'est la petite fille d'un des camarades de mon père. Le formulaire de mortuaire de la mort de mon père, c'est la première fois que je le vois. J'avais demandé la date de l'enterrement, personne ne la connaissait.
Et donc finalement, cette reconstitution continue, Georges Vézan. Toutes les semaines ou les mois, vous continuez de découvrir des choses.
Pour être sincère, c'était un livre interminable. Si j'avais pas eu une alerte de santé neurologique, j'aurais continué de vivre avec. Et je crois que les gens qui ont, nos campagnes qui ont porté des enfants peuvent connaître ça. c'est postpartum et c'est un peu ça. Quoi.
Mais toutes les quêtes sont interminables, Georges Vézan. Surtout les quêtes, vous dites, au début du livre d'ailleurs, vous dites ce vide, le vide de ce père, paradoxalement, prend de plus en plus de place. C'est l'énergie du vide. Et finalement, vous êtes porté par une question qui tire sa force de ce manque, mais dont vous savez qu'elle n'aura pas de réponse.
Oui, c'est pour ça que c'est interminable, effectivement. Mais en faisant ce travail, j'ai eu l'impression par moment, en tombant sur des documents, de pouvoir appréhender ce qu'il était. Quand je découvre un tract qu'il avait fait peu avant d'être arrêté et que je vois qu'il a tout passé, fait un logo à la règle et au compas, moi aussi qui étais élevé dans des maisons d'enfants où on faisait des affiches et tout ça, je me suis mis à repérer les dimensions, à regarder comme si en plus j'étais en train de dépouiller une manip pour vérifier qu'il y avait bien une régularité et ainsi de suite.
Donc finalement, d'être physicien, ça vous a servi?
De temps en temps, ça sert quand même.
Mais vous faites un travail d'archéologue qui fouille à partir d'un album photo. Ça, c'est une première phase de votre travail. Et puis, il y a un moment où vous découvrez, je crois qu'on peut le dire, vous découvrez, Georges Vézan, les archives, les vraies archives.
Le premier point, c'était que, au moment où le livre sur ma mère est paru, une de ses amies à elle, que je connaissais déjà, elle aussi, une ancienne résistante qui avait 20 ans, 45, était devenue prof d'anglais et avait une ancienne élève, ça sert de temps en temps d'avoir fait de l'enseignement, qui était directrice des archives du Nord. Alors les archives du Nord, ça fait penser à Yourcenar, mais en l'occurrence, oui, c'était pas du tout le cas.
Autre chose.
C'est bien que j'aime bien Marguerite. C'était, à l'époque, impossible de faire sortir des documents des archives. On doit ça à Jospin, quand même. Et elle a donc pris sur elle de demander à un employé des archives de regarder ce qui s'y trouvait. Et j'ai reçu, à mon labo d'ailleurs, une photocopie caviardée.
Du nom des gendarmes, des policiers, j'imagine.
Pas seulement, du nom de la maîtresse de mon père, qui était ma mère.
Ah oui, c'est ça. Ah bah oui, elle est de la pudeur aux archives nationales.
Je ne l'ai jamais connue, elle est décédée depuis, malheureusement. Je pense qu'elle aussi devait être une fille d'ancien résistant ou quelque chose comme ça. Et en tous les cas, je n'avais jamais imaginé qu'il puisse exister des traces écrites. Si vous voulez, on vit avec l'idée de l'extermination et on se dit, il n'y a rien qui reste. Et pourtant, dans mon métier, j'ai eu affaire un jour à un prix Nobel de chez IBM, qui, à la suite d'une conférence que j'avais fait sur la supraconductivité, me dit « Venez manger avec moi tout à l'heure au resto, on se met une table à part. » Et à part, il voulait m'expliquer que lui était petit-fils d'un grand rabbin de Varsovie, et qu'au moment de son prix Nobel, l'Académie des sciences polonaises voulait qu'il en soit membre. Ce qui ne l'enthousiasmait guère. Mais le jeune attaché scientifique polonais est arrivé 15 jours plus tard dans son labo à Zurich et lui a tendu le carnet de son grand-père, le grand rabbin de Varsovie. Donc on croit qu'il n'y a rien qui te reste et de temps en temps il y a des traces, un peu comme on voit un dinosaure ou des choses comme ça.
Alors là c'est quand même des traces particulières parce que vous tombez sur des documents, beaucoup de documents qui sont quasiment des PV d'interrogatoire, qui sont des notes du préfet, des réponses du procureur. Vous avez énormément de matière et vous comprenez, Georges Vézan, qu'il vous faut changer de méthode, que là vous pouvez plus être dans une recherche d'une histoire familiale cette histoire familiale a rejoint encore plus la grande histoire.
Oui, enfin je crois c'est le problème de la micro-histoire. Je crois que une enquête micro-historique n'est rien sans la contextualisation. Avec le regard qu'on porte aujourd'hui sur ces événements-là, évidemment, il y a
bien sûr.
On est des témoins a posteriori. Il y a donc une grande naïveté de croire qu'on va reconstituer ce qu'il était. C'est comme les instruments anciens, on peut les reconstituer tant qu'on veut, mais ça sonne pas pareil.
Mais là, ce qui est intéressant, c'est que on rentre quand même dans l'histoire très précise, de manière, alors pour vous, incroyablement émotive, d'un réseau. Qu'est-ce qu'il faisait? Comment il vivait? Comment il s'organisait?
Alors, j'avais, dans l'image du héros que avait tissé ma mère, je connaissais les grandes lignes. Je savais qu'il était devenu responsable des sabotages et que, grosso modo, compte tenu de ses compétences techniques, il était devenu celui qui organisait les sabotages dans la résistance, dans les débuts de cette résistance dans le Nord, qui était très timide.
Et mal organisé.
Mal organisé, mais en même temps, ce qu'il faut que les Français se mettent en tête, parce que là je parle comme quelqu'un du Nord, de manière qui peut surprendre vos auditeurs, tous les gens du Nord, communistes, socialistes, n'importe quoi, sauf extrême droite, sont tous des anglophiles, à cause de la guerre 14. Et donc, vous aviez dans le Nord, sans arrêt, un réseau de solidarité pour les aviateurs anglais qui tombaient, pour les renseignements qu'on pouvait faire parvenir, etc. Dans ces archives, je découvre, pour moi, c'est très loin des histoires qu'on nous raconte sans arrêt, que la première activité clandestine que fait celui qui sera mon père adoptif, de Fernand de la Bassée, c'est de distribuer un tract imprimé à Armentières, qui est la déclaration, un tract imprimé par un communiste, qui est la déclaration du général de Gaulle à Londres. J'ai lu ça nulle part dans un livre d'histoire.
C'est ça. Alors, mais on apprend des tas de choses dans votre livre. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris aussi, c'est la déclaration des communistes allemands en 1940. Oui. Ça, c'est très peu connu également.
Oui, c'est non seulement ça, mais moi j'ai découvert en lisant, je ne sais plus quelle revue militaire, mais c'est cité dans le bouquin, que le dernier résistant fusillé dans les environs de la Bassée, c'était un communiste allemand qui avait déserté de la Wehrmacht,
Peters,
qui avait fait la résistance à Hollande, qui était passé en Belgique, qui avait fait de la résistance en Belgique, et qui se fait finalement avoir dans les derniers jours de la guerre et fusillé aux environs de la Bassée.
Et lui aussi, c'est un héros.
C'est un héros. Et il est complètement oublié partout.
C'est ça. Joseph Peters.
Joseph Peters.
Alors, les communistes allemands s'étaient solidarisés immédiatement, dès 1940, avec le peuple français.
La réponse, c'est qui était le Parti communiste
allemand.
C'est ça,
oui.
ce qui était clair, c'était qu'à partir du moment où il y avait... C'est le passage du pacifisme au communisme et à la résistance. La réaction de quelqu'un comme Fernand, qui était né en 1902, qui était bossu, qui avait passé la guerre 14 comme grouillot pour les soldats anglais, à nettoyer leurs gamelles, etc., était devenu ensuite tuberculeux.
Et qui avait une image de Victor Hugo dans son salon, dans sa pièce.
Non, ça, Victor Hugo, c'était chez le père de son épouse.
Ah bon,
chez Jean Lost.
Excusez-moi.
Oui, en majesté.
C'est ça, oui.
Voilà. Libre penseur, celui-là. Et donc, Fernand est passé du pacifisme au communisme. Et il m'avait toujours expliqué, au début de la guerre, on nous a dit qu'il fallait essayer de sympathiser avec les soldats allemands, que c'était des ouvriers comme nous, et qu'il fallait essayer. Et effectivement, c'est ce qui se passera.
C'est ce qui se passera, parce qu'ils reçoivent des ouvriers allemands
oui,
chez eux.
Oui, avant que j'arrive. Hein.
Ah, c'est ça, oui. Mais alors, donc, revenons à votre père. Alors, votre père, c'est quand même un juif polonais qui vient de Bruxelles, qui parle français, qui finit par le parler très bien, d'ailleurs, parce que ça, on va le dire dans les derniers jours avant sa mort, les gens remarquent sa maîtrise de la langue française. Et il est dans un réseau de résistance communiste.
Oui. Mais le début de la résistance communiste, c'est... Bon, je ne suis pas un historien professionnel là-dessus. C'est toujours des noyaux qui ont démarré simultanément. C'est pas... Une consigne de Moscou qui percole et qui ruisselle, comme on dirait aujourd'hui.
C'est une co-construction.
C'est plus qu'une co-construction, c'est au bout d'un certain moment, ils comprennent qu'il faut faire autre chose. Parce que c'est pas tenable dans les mines, les conditions de travail sont épouvantables, les rations alimentaires, bien qu'étant soi-disant des rations de travailleurs de force, sont insuffisantes. Et donc, il y a, dès le début, une attitude classique d'un militant ouvrier, il faut... s'occuper des revendications des travailleurs pour les organiser dans le désastre que vient de connaître le pays.
Mais alors parlons des rations alimentaires, parce que ça va jouer un rôle important dans la vie de votre père, sa résistance, son acte de résistance. C'est qu'il passe dans la clandestinité à partir d'un certain moment, et dans la clandestinité, il faut bien manger. Et pour manger, eh bien, il faut braquer des mairies pour avoir les tickets de ravitaillement.
Alors ça, c'était l'épisode qui était en général passé, pas complètement sous silence, mais pas très clair. Je savais sans savoir, tout en on n'insistait pas. Les mémoires d'un vieux dirigeant communiste, Jean-Marie Faussier de l'époque, évoque ça dans une phrase d'un mot. Il était au courant, on s'était croisés déjà. Mais effectivement, il attaque des mairies, comme beaucoup de résistants communistes. Il y a très peu de clandestins, il ne faut pas jouer sur les chiffres.
Oui.
On est en 41-42, quelques dizaines. Mais il faut trouver de quoi nourrir...
Dans le Nord.
Dans le Nord, quelques dizaines de personnes. Donc il faut de l'argent, il faut les tickets de ravitaillement.
Et puis il faut des
planques pour les faire dormir.
Et des ateliers pour fabriquer les engins de sabotage.
Voilà, alors les ateliers, ça avait déjà commencé quand ils étaient, avant qu'ils soient dans la clandestinité, quand ils étaient à Cambrai, ils étaient chez une des madames bourgeois, dont le fils était déjà à Londres.
Ouais.
Et mon père faisait des expériences de chimie amusantes, on va dire, dans le jardin, qui est derrière la maison. Et quand ça fait boum, il y a madame bourgeois qui est venue à la fenêtre et qui a dit, faites attention quand même, on vous attend d'un peu trop loin.
Donc, pas beaucoup de résistants qui sont dans une totale clandestinité, mais c'est son cas.
Oui, c'est très tôt, parce que c'est toujours les plus jeunes qui partent les premiers. Parce qu'il y a beaucoup d'immigrés. Ils n'ont pas été donc dans l'armée française à la faveur de la débâcle. Et ils sont disponibles. Ils essayent de s'intégrer dans cette société. Et pour certains d'entre eux, ils sont des bons élèves, comme on disait à l'école primaire. Notamment des Italiens, là, le groupe Ferrari, des gens comme ça.
Mais et ce sur quoi insistent tous les documents, tous les documents pendant la guerre, on verra après que ça insiste sur son attachement à la France.
Ça m'a surpris, je vais vous pour être sincère, oui. Je l'aurais pas exprimé de la même façon aujourd'hui, tout en sachant que il suffit que j'aille à l'étranger pour me sentir plus français que d'autres. Mais toujours en France, de temps en temps, je me dis, il y a des trucs, bon, j'ai ma personnalité là, je raisonne différemment, ou bien je sais que j'ai des imbéciles, dans les comportements sociaux, des attitudes imbéciles, ou des choses comme ça.
Alors que lui quitte la Pologne en 1938, il passe par la Belgique.
S'il était resté en Belgique, je pense qu'il aurait aimé la Belgique, mais la France avait ce prestige de l'affaire Dreyfus. On peut pas l'oublier. Pour tous ces juifs émancipés ou en cours d'émancipation, le fait qu'il ait pu avoir un capitaine de l'armée française, d'abord qui était juif, qui deuxièmement a été victime de ce complot, mais que troisièmement on le réhabilite, ça, c'était absolument extraordinaire.
Mais d'ailleurs, dans tous les documents, parce qu'il va être décoré, on parle du capitaine. Alors après, les orthographes sont très fantaisistes.
Oui, ça, j'ai passé mon enfance et j'ai dû payer finalement un avocat.
Pour rectifier le...
Pour que ça soit la graphie actuelle.
C'est ça. On lui attribue le grade de capitaine. Et...
Oui, ça c'est quand les gens sont morts.
Oui, déjà, oui.
Il n'avait pas de grade dans la résistance.
Oui, les résistants n'étaient pas tellement préoccupés.
Non, surtout à cette époque-là, c'était pas leur problème.
C'est ça. Mais ils sont arrêtés. Alors on a des documents extrêmement précis.
Oui, ça c'est arrêté très tôt. C'était pas très clair pourquoi il avait été arrêté. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le préfet envoie ses rapports mensuels à Vichy, et l'un d'entre eux indique, je crois que c'est à peu près à cette période, que vraiment la seule force politique qui se soit réorganisée dans le nord de la France, ce sont les communistes, mais qu'il y a un nombre de sabotages qui commence à être un peu trop important dans les entreprises. Et là, on arrive dans le secteur du Nord que vous connaissez bien, notamment du secteur de Denain-Valenciennes, où il y a
très
industrialisé,
bien sûr.
Et donc, le préfet, qui était un préfet farouchement anticommuniste, vrai radical socialiste, Troisième République, protégé de Bousquet, décide, lui, de mettre 300 gendarmes, demande des renforts sans arrêt, demandait aussi, il connaissait pas le vocabulaire, qu'il y ait un centre de regroupement pour les détenus qui est arrêté par la police française, comme il y en a dans le reste de la France, dit-il. Et il envoie ses 300 gendarmes et policiers faire des barrages routiers, arrêter les cyclistes qui sortent du boulot, regarder s'ils ont des tracts sur eux, vérifier ce qui se passe, etc.
Et ça s'avère payant,
il y a un contremaître qui aurait parlé, ils font un coup de filet, ils arrivent dans la planque de mon père, Naïvement, sa logeuse dit « il est parti, il va revenir ce soir ».
Monsieur Maurice.
Monsieur Maurice, voilà, oui, c'était Monsieur Maurice. Ouais, donc le monsieur indiquait déjà qu'elle le considérait, effectivement, il était toujours bien mis, un peu à part. Et donc, il y a une souricière qui est tendue, et on arrête Monsieur Maurice, qui, quand il arrive, a un revolver sur lui. Donc cette fois-ci, l'arme est remise...
Mais il n'a pas le temps de s'en servir lors de l'arrestation. Donc il est arrêté.
Et comme on a une arme sur lui, l'arme est donnée aux forces d'occupation. Non pas la Gestapo, mais la Geheimhaftpolizei. C'est eux qui se chargent de la suite de l'enquête. Mais les interrogatoires sont menés par les Français. Et naturellement, tous les gradés s'amènent pour montrer, faire du zèle, montrer qu'ils sont effectivement très compétents.
C'est ça. Et il va y avoir beaucoup d'interrogatoires.
Il y aura beaucoup d'interrogatoires. J'ai pas vécu avec mon père. Et donc, les mauvais coups, les mauvais traitements, évidemment, comme vous le savez, vous êtes mieux formé que moi, c'est pas mentionné dans les interrogatoires.
Bien sûr. Mais quand même, on parle de formules euphémisées qui laissent penser que ça a été dur.
Je pense surtout qu'il s'était déjà cassé un bras quelques mois auparavant dans l'Exode. Donc, ça n'a pas dû être facile, mais c'est la grande différence qu'il y a eu d'avoir vécu avec ma mère étant enfant et de savoir qu'il y avait des matins où il fallait pas poser de questions à cause des cauchemars de la nuit. Et là, c'est un mort, il est dans sa tombe. Bon, si vous avez jamais eu le même type de réaction, quoi.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repéré mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions trois, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond. Dans la prison des frontières.
France Culture,
Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice, toujours avec Georges Vézan pour retrouver l'histoire et les traces, à partir des traces de son père qui a été fusillé. Georges Vézan, vous avez choisi, deuxième morceau de musique, La Complainte du Partisan, dont les paroles sont d'Assis de la Bigerie.
Oui, Garapon, j'ai choisi cette chanson, c'est celle qui n'est pas connue. Quand je vais aux cérémonies qui ont lieu une fois par an, sur le lieu d'exécution de mon père, il y a cette musique sans les paroles qui est chantée à la fin. Et autour de moi, la dernière fois, j'ai dit « Mais de quoi s'agit-il ?» Personne ne savait. Ce qui en dit long sur la façon dont s'effiloche la connaissance.
C'est ça.
Et j'ai découvert que c'était fait par Dina Marley, qui était une Russe émigrée blanche, qui est allée à Londres, qui travaillait avec la France libre, qui a écrit la musique des deux chants des partisans. Celui que tout le monde connaît, de Joseph Kessel, et celui-là aussi. Et paraît-il, là, c'est une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, l'avion qui emportait ces deux partitions sur la France Il a gardé l'autre. Il y en a une qui a été perdue dans l'accident où je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que cette chanson, qui est très juste, les paroles ont été écrites par Emmanuel Dacier de la Vigerie, que j'ai croisé quand j'étais jeune homme à l'époque. Et elle décrit les débuts de ce qu'on a appelé plus tard la résistance. On n'est pas dans le maquis, on n'est pas en train de dire on a un territoire conquis. Ça n'est pas le Vercors, le nord de la France. C'est aller d'un endroit à l'autre, se planquer. Les vieux derrière vous sont arrêtés. Si ce sont des mères de famille qui vous ont hébergé, on les relâche parce qu'il faut quand même... l'État français va pas s'occuper des gosses. Mais si ce sont des hommes, alors on les tabasse et on les passe par les armes.
C'est ça. Et alors, vous avez la chance, ça c'est un document exceptionnel, d'avoir un témoignage direct des derniers jours de votre père avant son exécution.
Ça, c'était... je connais ça depuis tout le temps, je dois dire. Quand vous étiez condamné à mort, vous étiez à l'isolement. Puis, après que le verdict avait été prononcé et les accords du bourreau obtenus, etc., pour ceux qui allaient être guillotinés, ou les grâces refusées, comme dans le cas de mon père, qui d'ailleurs, la grâce n'avait aucune importance, ils étaient mis dans une cellule où il y avait d'autres détenus. Et mon père a eu la chance de se retrouver dans la cellule où il y avait un militant socialiste, ancien camarade d'études de Roger Salengro, qui était un médecin, lui aussi. Il s'appelait Denis Cordonnier, qui deviendra maire de Lille à la Libération. Et Denis Cordonnier, dès la libération de Lille et malgré tout son travail, a d'un côté écrit un compte-rendu de ce qu'il a vécu dans les geôles allemandes, c'est le titre de son ouvrage, et d'autre part, il a fait paraître des annonces pour savoir si quelqu'un avait des nouvelles de Madame Vézan et de son enfant, de prendre contact avec lui.
Et donc, il y a cette... Il écrit... Et
donc, je l'ai croisé étant gamin. Je devais avoir maintenant 3 ans et demi, puisque l'enterrement, hein, je sais qu'il a eu lieu au mois d'octobre. Et nous sommes allés avec Jeanne et Fernand à Lille. J'ai découvert ce que c'était, un bureau avec des portes capitonnées, un monsieur derrière un grand bureau, etc. Et il a raconté ce qui s'était passé. Et c'est ce qu'il a écrit dans ce livre. Et un ami de ma mère, le mari de la prof d'anglais que j'évoquais tout à l'heure, avait fait prendre des photos de qualité des dernières pages qui concernent mon père quand il arrive dans la cellule, avec un de ses camarades d'ailleurs du groupe, Léon Fondu. Et ils se mettent, Denis Cordonnier se met à expliquer comment il a vécu jusqu'au dernier moment. Donc j'avais cette chance, de toute leur famille, je sais rien. Mais pour ces dernières heures, je savais.
Et qui sont, qui pour le coup sont héroïques.
Héroïques et humaines.
Humaines, c'est ça.
C'est ça qui m'a toujours apprécié. Il a peur des balles. Il sait qu'il va mourir. Il a aucune hésitation là-dessus. Il n'a pas peur. Mais il voudrait quand même que ça se passe vite et que ça fasse pas mal. Et donc Cordonnier, qui était médecin militaire à la guerre 14, lui explique. Il a suivi des exécutions de déserteurs de la guerre 14. Notamment un pauvre bougre qui était allé boire dans un bistrot qu'on a ensuite fusillé pour désertion, etc. Et Cordonnier lui assure que ça fait pas mal, que c'est juste un instant.
Et donc, vous avez cette chance d'avoir ce témoignage qui est effectivement terriblement humain et qui...
Oui,
qui
ça donne une idée de
la personne qu'il était.
Voilà, de l'homme et pas du héros.
Et c'est ça. Et finalement, au bout de ce livre interminable, et vous avez réussi à terminer et que je ne saurais trop recommander à nos auditeurs parce que c'est toute une réflexion aussi sur ce moment, sur un pan de notre histoire et sur le travail que ça réclame de la part d'un scientifique, d'un grand scientifique comme vous, d'être obligé de...
Non, je ne suis pas un grand scientifique, un scientifique moyen.
Un scientifique moyen. Ben, de la part d'un scientifique moyen comme vous, Georges Vézan, de faire une enquête et de faire une enquête où vous n'avez que des faits. Et vous dites, mais moi, ce que je veux, ce n'est pas des faits, c'est de rencontrer un homme. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait connaissance avec votre père au terme de ce travail ?
Il y a eu ces moments que j'évoquais tout à l'heure, reprendre le tract qu'il avait fait et s'amuser, etc. Je me suis dit, bon, ben là, je vois le plaisir qu'il a eu et ainsi de suite. D'ailleurs, du coup, son tract n'est pas au format.
C'est la Roneo, c'est un peu bricolé.
Ça, bon, d'une part, c'est la Roneo, mais d'autre part, il a pris tellement de place pour la mise en page de son logo que le texte lui-même déborde et ainsi de suite. Donc ça, j'ai compris, il y a eu des moments comme ça. Il y a eu ce... Avant qu'il soit complètement dans la clandestinité, il a un ami... à qui il donne des cours d'allemand, avec qui il essaye à jouer de la guitare. Mon père, évidemment, était un bon musicien, paraît-il. J'ai des photos où il joue de tout. Et je pense que pas mal de ses succès étaient celui du musicien dans le bal. J'ai découvert ça. Je l'ai plus donné cher, mais le vrai problème derrière ce truc-là, c'est l'absent que vous pouvez pas aimer. C'est bon. Je me suis jamais engueulé avec lui, avec ma mère. Dieu sait si nous avons eu des discussions politiques à l'infini et ainsi de suite. Mais on savait que on tiendrait toujours tous les deux ensemble.
Même si ton entourage vous dit, tu ressembles à ton père.
Voilà.
Oui, c'est ce que vous.
Et donc c'est un peu ça la situation.
Et c'est aussi un livre qui est un livre sur la solidarité populaire française.
Oui, c'est-à-dire on voit ce qui se passe dans les corons. Oui. La façon dont ça a existé, ce sont des choses que la société cherche à faire disparaître en ce moment. Chacun doit être son entrepreneur, et les notions de solidarité et d'entraide sont au second plan. Et c'est quelque chose qui, dans les milieux populaires, persiste, parce que vous pouvez pas vivre seul là-dedans. Si vous êtes dans un coron, et ben évidemment, vous avez votre jardin ouvrier derrière le coron, et vous discutez avec le voisin, quand est-ce qu'on plante les poireaux, est-ce que il a arraché ces mauvaises herbes pour pas qu'elles arrivent chez nous, et ainsi de suite, quoi.
Et puis parce que, dans le fond, vous avez passé les premières années de votre vie avec Jeanne et Fernand, dans cette culture de coron,
C'était pas un coron, là, où on vivait,
excusez-moi,
Là-bas, il y avait 200 mineurs, mais la ruelle où nous étions, la rue Lestarki, était une rue avec des briques récupérées après la guerre 14, etc. Mais c'était pas un coron, il y avait même un ingénieur qui habitait la rue. Il était originaire de Saint-Étienne, alors on l'appelait Monsieur Pneu, parce qu'il disait pneumatique.
Ah oui. Et donc c'est aussi une organisation, ça c'est très impressionnant, ça parcourt tout le livre, et c'est quelque chose je crois que nos contemporains ne connaissent plus, c'était ce niveau d'organisation du Parti communiste.
Ah, c'était les cellules de village et les cellules d'entreprise. Donc Fernand, il n'y a pas très longtemps j'ai appris, avait mené une grève en 1938 pour augmenter des revendications de salaire au moment où il y avait les plans de réarmement. C'était une grève nationale, je ne savais pas ces trucs-là. Et il a été évidemment licencié parce qu'il était meneur de la grève. Faut dire que n'ayant pas fait d'études, il était analphabète, mais c'était un grand lecteur. Et comme il était bossu et qu'il avait un frère, pour compenser son handicap, il n'a rien trouvé de mieux que de créer une société de gymnastique dans son village. Donc lui, évidemment...
Mais la société de gymnastique, ça évoque aussi un autre souvenir de votre famille, de polonaise ou bruxelloise, le Jask.
C'est le coup classique, sous la Quatrième République. Les organisations d'immigrés et les journaux en langues étrangères étaient interdits. Et donc la manière de contourner cet obstacle, c'était non pas de faire des associations culturelles, comme on dirait aujourd'hui, mais de faire des associations sportives. Alors il y avait le Yiddish Arbeit, et mon Yiddish était inexistant, donc Cercle des Travailleurs Yiddish, qui existait à Paris, Cercle Sportif, voilà. Et le S, c'est Sportif, qui existait à Bruxelles, qui existait à Paris.
Mais alors après toute cette histoire, très vite, il est reconnu par la résistance, par les résistants comme étant un héros de la résistance qui a été fusillé, qui était responsable d'un réseau. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là.
Non, c'est très compliqué parce que il n'avait pas d'existence, enfin à part cette déclarée en arrivant à Cambrai, il n'y avait pas de vrais papiers. qui témoignait de son existence. Ma mère est déportée et ne rentrera des camps que 1er mai 45. On oublie toujours que Paris est libéré en 1944.
Mais pas les camps.
Mais pas les camps. Et je me souviens qu'on avait assisté l'année de sa mort aux cérémonies parisiennes. Et, enfin, via la télévision, et à marmonner entre ses dents. Et pour nous, il y en avait encore pour 9 mois. Ouais. Qui ont été des mois très difficiles.
Très difficiles.
Et donc, mon père revient. Ma mère n'a pas d'existence non plus en France, sauf de s'être déclarée une fois. Sous un nom plus ou moins ambigu. Et il faut partout faire des papiers, des papiers, des papiers, des papiers. Et la queue, ça lui rappelait toutes les queues qu'il y avait au camp.
Qu'il fallait. Et supporter pas les queues.
Supporter pas les queues. On pouvait, si on allait au cinéma, qu'il y avait queue, non, viens, on s'en va. Et bon, je comprenais très bien, je posais pas de questions là-dessus. Donc c'était une période très éprouvante. Le médecin de la famille de Labassé lui dit d'aller terminer, lui donne 2 conseils. De manière étonnante, moi je ne l'ai pas connu, mais il a eu suffisamment d'autorité sur cette femme orgueilleuse pour lui dire, vous allez manger du sel. Elle était complètement déminéralisée, elle avait les pieds tordus, les poignets cassés, etc. Le cordonnier de la rue Lestarqui lui a dû lui faire des brodequins que je peux encore dessiner sur mesure pour qu'elle puisse marcher normalement. Et le deuxième conseil, c'était, allez terminer vos études à Bruxelles. Elle va avoir son diplôme de médecine en 46.
Alors, Georges Vézan, on arrive à la fin de cette émission, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a eu des tas d'allées et venues, de vouloir vous retirer de la nationalité française, contester son titre de résistant, puis bien sûr qu'il a été restitué. Et pour vous, toute cette histoire, elle motive peut-être l'engagement qui a été le vôtre au-delà de l'écriture.
Oui, c'est une évidence. Je veux dire, il n'était pas question que je devienne un entrepreneur individuel comme on le propose aujourd'hui. Aux jeunes chercheurs ou même aux jeunes avocats, j'imagine, ou aux jeunes juristes.
Tout à fait.
Vous avez... d'ailleurs, bravo pour l'École nationale de la magistrature.
Vous avez été un physicien solidaire, alors.
Oui, très tôt, sur les questions sciences et sociétés, et solidaire des dissidents soviétiques aussi.
Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup, Georges Vézan. Je rappelle le titre de votre livre, Profession du père, fusillé.
Merci, Garapon.
Esprit de justice, Georges Vézan, Jean-Michel Bernaud, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascal Desvignes, Antoine Garapon. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21h. Bonne soirée.